Je vous rappelle que pour qu'il y ait communication, il faut l'émission d'une information. La réception doit être sans interprétation ni déformation. Il s'agit de créer de la relation. Des questions ?
Heureux qui communique.
En 1990, c'est l'heure de la communication.
Nous avons les moyens de vous faire parler.
Écoute, Minon, on a les moyens de te faire parler. Tu sais.
Oh, cousine, oh, oh, tu me lâches ton 06 ? Oh, cousine, fais pas des manières, lâche-moi ton 06.
La communication est momentanément interrompue. Nous mettons tout en œuvre pour la rétablir dans les plus brefs délais. Merci.
Jacques a dit... communiquer.
Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, papa, tango, ciao.
Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur?
Ça, qu'est-ce que je réponds?
Ah oui, combien?
You talking to me?
Je te reçois 5 sur 5.
Allô? Allô? Allô, la Terre? Ici, la Lune. Allô?
Allô?
La communication. Comment, pourquoi, avec qui, où, c'est quoi? Plusieurs réflexions ont fusé. Entrer en relation, mettre en commun, transmettre, s'exprimer, parler, dire, écouter. Et pendant une semaine, à la sueur de notre front, sous la chaleur toulousaine, nous, les éducateurs de la promo 12-13, on s'y est attelés. Papier, fiction, reportage, on a fouillé partout. On a cherché, et voilà ce qu'on a trouvé.
Eh bien moi, je me suis dit que communiquer, c'était déjà ne rien dire. On constate à tort ou à raison que le premier avis que l'on se fait d'une personne nous vient de l'image qu'elle nous renvoie. Cette image peut nous venir de son look, de sa tenue, mais aussi de sa posture et de son comportement. Moi, gamin, c'est ma mère qui choisissait mes vêtements. Alors, quand aujourd'hui je regarde les photos de classe de l'époque, je rigole. Bah oui, quoi. Faut dire qu'avec des baskets à la Starkey & Hutch, un pantalon de velours marron et un sous-pull rouge à col roulé, ça envoyait du lourd. Alors, ado, je me suis rebellé contre tout ça. Déjà, je me suis percé les oreilles. Ensuite, il était important que mon jean soit troué, que mon t-shirt soit l'effigie de mon groupe préféré de l'époque, les Béruriers Noirs. Bien sûr, mes chaussures étaient des Doc Martens et je portais aussi un Bombers. Mais le clou du spectacle, c'était ma crête de quepon et mon bouc jaune. Et ouais, un vrai rebelle. Le seul souci, c'est que lorsque j'allais voir mon banquier, il était en panique et qu'il me croyait obligatoirement à découvert avant même d'avoir consulté mes comptes. Puis, je me suis mis à travailler dans le social. Là, en hébergement, c'était jean, doc, un gros pull en laine et une barbe de 3-4 jours. À partir de ce moment-là, mon banquier avait curieusement moins peur de mon découvert. J'étais pourtant toujours le même. Il m'a même proposé un prêt et m'appelait « monsieur ». Là où tout a changé, c'est cette année. Je me suis retrouvé en milieu ouvert. J'avais la pression au maximum. J'allais travailler avec des juges, des avocats, et même avec des familles. Alors là, niveau présentation, fallait assurer à fond. Mes collègues de ce côté-là assuraient plutôt pas mal. Alors moi, j'ai dû m'adapter. Bon, j'ai su préserver l'essentiel, j'ai gardé les docs. Mais pour le reste, un pantalon de ville, une chemise, et surtout un visage rasé, faisaient de moi un gars bien présenté. Je vais vous dire que là, mon banquier était prêt à me faire investir sur le marché. Mais oh, je suis pas trader, moi. Moi, là-dedans, avec toutes ces évolutions, je me rends compte que j'ai bien changé. En apparence seulement.
Allez, c'est parti. La magie s'opère dès l'arrivée sur le camping. Tu peines à monter ta tente, t'es maladroit, même pas le temps de demander de l'aide. Ils sont là. Une, deux, voire trois personnes. Salut, t'as besoin d'un coup de main ? Eh oui, c'est comme ça. Les festivals, tout le monde se tutoie comme si on s'était quitté la veille. J'ai parcouru plein de festivals, de Belfort aux Vieilles Charrues, de la Route du Rock au Festival de Jazz, et j'en passe. C'est miraculeux. Voyez-vous tous ces humains danser ensemble, à se donner la main, qui se retrouvent pour une même passion. La musique véhicule des valeurs de convivialité et d'ouverture d'esprit. Tu rencontres tous ces êtres vivants de tout horizon et parfois, sans pouvoir te l'expliquer, un engouement s'opère. Tous les partages existent et les cultures se mélangent en toute simplicité. C'est clair, pour moi, si la musique fascine, transporte, c'est qu'elle touche chacun de nous. Marie, Pierrole, Olivier, Jessica, Frédéric, Mimi, peu importe de quel horizon ils sont. Avec certains d'entre eux, ça fait entre 5 et 15 ans que notre relation est vraiment là. On s'appelle, on se mail, on se retrouve et c'est amazing. Se retrouver sans préjugés, sans être stigmatisé, sans ces questions types que l'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, du genre « Bah alors, tu fais quoi ? T'as des enfants, t'es d'où ?» Bref. Pour moi, dans d'autres contextes, les échanges sont sans intérêt, sans âme, voire inexistants. Je peux citer des tas d'exemples, à l'arrêt de bus, au café, au restaurant, les gens ne te parlent pas spontanément. Dans le métro, t'es chargé comme une bourrique, personne te propose de t'aider, parfois même on te piétine, alors qu'on est soi-disant dans l'ère de la communication. Prends comme référence Internet, qui relie soi-disant les gens, mais qui en fin de compte les coupe du monde. Moi, ça fait plus d'un an que je suis dans un nouveau quartier et le dialogue avec mes voisins ne s'est toujours pas créé. En clair, ils causent pas. Les échanges virtuels se multiplient, mais les rapports humains s'appauvrissent. Ça m'effraie. Alors, je continue mon petit bout de chemin, tout simplement en musique, qui pour moi reste source de belles rencontres et d'échanges authentiques.
Nous avons réfléchi sur le thème de la communication. Et une des formes de communication à laquelle nous avons pensé, c'est la communication extraterrestre. Existe-t-elle ? C'est pourquoi nous nous sommes rendus au Centre National d'Études Spatiales à Toulouse, et plus précisément au GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Donc moi je suis Xavier Passot, je suis le responsable du GEPAN.
C'est monsieur Xavier Passot, le responsable de ce service, qui a accepté de nous recevoir. Il traite tous les témoignages de phénomènes inexplicables que les Français observent. Il va nous permettre de comprendre comment il traite ces témoignages et comment il communique les résultats aux citoyens.
Donc nous, on a une question cruciale à vous poser, c'est que pensez-vous qu'il existe une communication extraterrestre ?
Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Voilà, c'est une question à laquelle on ne répond pas, voilà, parce qu'on ne sait pas. Donc nous, notre métier, c'est de savoir si ce que les témoins ont vu est explicable ou pas. À partir du moment où c'est inexpliqué, nous, on s'arrête là. On ne répond pas à la question, en fait. D'accord. Parce que sur le plan scientifique, il n'y a pas d'évidence.
Quelles sont les explications les plus courantes ?
Les explications les plus fréquentes au top 50, là, c'est les lanternes thaïlandaises. C'est des petites montgolfières en papier. Donc, dessous, il y a un petit bloc de paraffine auquel on met le feu. Ça chauffe. Et le petit engin s'en va dans le ciel, comme ça, et vole au gré du vent. Ça se fait beaucoup à la fin des mariages. Voilà, donc ça, c'est tous les lundis matin, on est à peu près sûr d'avoir une ou deux observations qui vont s'expliquer avec ça. Voilà.
Quand vous recevez un dossier, qu'est-ce que vous vous dites finalement dans votre tête ? Est-ce que vous allez chercher à trouver d'abord l'explication scientifique irréfutable que ce phénomène est un phénomène normal ? Ou est-ce que quand même, quelque part au fond de vous, vous espérez trouver un jour quelque chose qui soit vraiment inexpliqué ?
Alors, c'est vrai que quand on fait ce métier-là, on espère toujours trouver le cas extraordinaire. Hein. Bon. Mais néanmoins, quand on analyse quelque chose, on commence par passer la checklist de tous les phénomènes connus. Il y a peut-être 20 méprises qui sont les plus classiques, qui vont couvrir la quasi-totalité des cas. Hein.
Je vois dans votre bureau que vous avez beaucoup de photos donc de phénomènes, on va dire, un peu paranormaux pour nous. Est-ce que ce sont des photos qui vous ont été envoyées ?
Alors, la plupart de ce qui est affiché, là, sont des photos de témoins, hein, donc des photos qui nous ont été envoyées. Et la plupart, même toutes, là, que je vois, ont une explication, en fait. Hein, voilà.
Moi, c'était cette image-là, dans le ciel de Marseille en janvier 2009, là, Marseille sous la neige. Et on voit un très grand anneau, en fait, lumineux, dans le ciel.
Alors, effectivement, le témoin donc, avait pris cette photo de Marseille sous la neige, et il a pris cette photo dans sa cuisine, à travers la vitre. Et ce que vous voyez, c'est le plafonnier de la cuisine reflété par la vitre. Voilà. Voilà. Mais ça le fait bien. Hein.
Vous êtes un briseur dans la...
Donc, moi, j'imagine que les gens, lorsque vous leur dites que l'observation qu'ils ont pris pour un phénomène paranormal ou venant de l'espace, et qu'ils doivent être déçus quand vous leur expliquez c'est une lanterne thaïlandaise. Donc, comment vous vous y prenez dans ces cas-là pour les informer de leur erreur d'analyse, quoi, en fait.
Alors, c'est un sujet de communication très délicat, ça, parce que il faut effectivement ne pas choquer le témoin, qui souvent lui-même a été très impressionné par son observation. Voilà. Sinon, la procédure classique, c'est on leur fait un courrier qu'ils reçoivent par la lettre et on leur dit, voilà, votre observation, vous avez vu des lanternes thaïlandaises.
C'est un peu violent,
voilà, tout à fait. C'est un peu violent. Donc, je me suis aperçu que dans certains cas, pour le témoin, c'est même inacceptable, quoi. Voilà. Donc, j'essaye, dans la mesure du possible, de les appeler moi-même et de leur dire qu'ils ont fait une confusion, que c'est normal, qu'ils aient été surpris, que c'est fréquent, que... Enfin, voilà.
Vous, à titre personnel, est-ce que vous pensez qu'on peut penser à une vie et des moyens de communication avec des extraterrestres potentiels ?
Alors, est-ce qu'il y a des extraterrestres dans l'univers ? On voit pas pourquoi il n'y en aurait pas, vu le nombre de planètes, etc. Bon, même si l'arrivée de la vie intelligente paraît infiniment peu probable, mais comme il y a une quasi-infinité de planètes, l'un dans l'autre... Bon. Alors la communication, bon, là aussi, avec les lois de la physique telles qu'on les connaît aujourd'hui, quand bien même on pourrait communiquer, donc je vous rappelle qu'avec la planète de l'étoile la plus proche, c'est 4 ans. Hein. Vous voyez, si on avait établi un dialogue... bonjour, comment ça va ? 8 ans après, on a la réponse. Bien, et toi ? Et donc c'est un peu difficile quand même d'aller loin dans le dialogue. Hein, voilà. Jusqu'à ce que... Alors, il y a peut-être d'autres moyens de communication qui nous échappent. Hein, parce que si on se place au XVIIe siècle, par exemple, imaginez qu'on puisse communiquer avec un téléphone portable avec l'autre bout de la planète. Je pense que c'était quelque chose qu'ils avaient du mal à imaginer. Hein. Voilà, il faut rester quand même ouvert à des développements technologiques qui nous sont aujourd'hui impensables.
Vous êtes sur le serveur vocal du service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse. Si vos parents sont dans l'incapacité de vous offrir un cadre sécurisant et contenant, tapez 1. Si la perspective d'aller à l'école provoque en vous des envies suicidaires, tapez 2. Si vous entendez des voix qui vous ordonnent d'exterminer vos camarades du collège, raccrochez et faites le 15.
Dans ma vie personnelle et mon activité professionnelle, communiquer une information sensible est toujours sujet de questionnement. Il y a un cas qui me revient souvent en tête, celui de William. William en est à sa deuxième incarcération. Il a fait 8 mois. Il fait régulièrement l'objet de sanctions disciplinaires. Il ne supporte plus de rester entre 4 murs. Au niveau familial, seule la mère est présente et vient régulièrement le voir. Son père ne donne plus de nouvelles. William investit difficilement la relation éducative, mais là, on est en prison. Et en prison, la communication avec l'éducateur facilite le lien avec l'extérieur. J'ai réussi à rentrer en lien avec lui en travaillant un possible retour au domicile familial. J'ai essayé d'être honnête en y mettant les formes pour moins de brutalité. Un soir, je prends le jeune en entretien pour aborder la question du projet de sortie. Les choses avancent, il est confiant. Mais peu de temps après, face à la multiplication des passages à l'acte, l'administration pénitentiaire décide de le transférer. Le problème du transfert, c'est que vous allez là où il y a de la place. L'administration m'annonce qu'il va être déplacé à plus de 300 km. Gros moment de solitude. Je suis porteur d'une information lourde qui me touche, qui aura des conséquences sur le jeune et sa famille. Nouvel échec pour William. Sa mère ne pourra pas se déplacer. Ce qui renforcera son sentiment d'abandon. Ce genre d'information n'est pas à divulguer pour des raisons de sécurité. Je suis tenu donc au secret jusqu'à son départ. Donc je bricole. J'arrive à expliquer au jeune que malgré les avertissements qu'il a eus et qu'il n'a pas pris en compte, la paix va agir contre lui. Le jeune est abattu. Il est conscient des difficultés que cela va poser pour sa mère. Je me suis convaincu qu'il s'en doutait, vu son attitude. La triste réalité, c'est que je ne suis pas à sa place et que j'essaie de me rassurer. L'information lui a été communiquée 10 minutes avant son départ. Il est transféré sous mes yeux. Il doit faire son paquetage et vider sa cellule. Avant de partir, il me dira « Carlos, pour mon projet, il avait l'air accablé. » Je lui ai dit que je ferai le lien avec les éducateurs de son prochain lieu de détention, tout en sachant que le projet sera entravé par 300 km de distance. Je finis par passer à autre chose. Je me suis aperçu que l'honnêteté qui me caractérise peut aller à l'encontre de mes obligations professionnelles. Je fais partie de l'institution, je la représente, donc je dois en respecter les limites. Facile à dire, mais... difficile à vivre. Il y a peu, j'ai appris qu'il était sorti et que sa mère était morte 1 mois après.
C'est une fin d'après-midi ensoleillée au CEF.
Les activités sont terminées et nous attendons 5 heures pour que Samir serve le goûter. Je suis avec deux adolescents et nous nous installons sur des fauteuils, dehors, à l'ombre pour patienter. Nous discutons de tout, de rien, de la chaleur qui arrive enfin, du prochain retour en famille, du goût sucré de l'enfance des Capricorne et de mon incapacité à comprendre comment on peut braquer un tabac avec autant de violence et l'instant d'après jouer avec un petit frère avec autant de tendresse. Sourire, échange de regards, on s'est compris. Une brèche est ouverte, je m'engouffre. Alors, explique-moi, qui es-tu ? Pourquoi ? Son regard me perce. Avec malice, sans agressivité, il me répond du tac au tac. Et toi ? Dis-nous, c'est qui Christophe ? Je souris et comprends qu'il va falloir que je donne avant de recevoir. Ce moment particulier, cette bienveillance partagée me permet de livrer ce que je veux bien donner. Je parle de moi comme d'un autre, à la troisième personne. Ils écoutent et semblent apprécier. J'ai la main, j'abats mon jeu. Et toi maintenant, c'est qui Bilal ? Ses yeux brillent. Bilal ? C'est un rôle. J'en reste muet. En une phrase, ici, dehors, comme ça, il m'a donné plus qu'en 2 mois de placement. Si c'est un rôle, c'est pas lui. Je comprends comment il investit sa place ici avec nous et avec les autres jeunes. Comment il se montre, comment il s'expose, comment il surjoue. Jouer, rôle, on y est, j'ai compris. À trop formaliser nos procédures, on passe aussi à côté des choses simples et des moments essentiels. À trop aseptiser, on bride la parole. On force les jeunes à aller vers du convenu, chacun à sa place et dans son rôle. Communiquer, parler, écouter, entendre, mettre des mots. Donnons-leur cette possibilité de sentir que ce qu'ils ont à nous dire et à partager est important. Rappelons-leur sans cesse qu'ils sont importants.
Bonjour mon amour, t'as bien dormi ?
Oh, non, j'ai mal dormi. T'es chiant avec tes insomnies. Tu t'es levé toute la nuit. Oh, je reste au lit. Tu vas faire les courses, s'il te plaît ?
Mais écoute, si tu veux. Bah écoute, je vais y aller, pas de problème. À tout à l'heure. Bonjour.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ?
Bah écoutez, comme d'habitude, une baguette, 2 croissants.
Ok.
Et puis là, je vois que vous avez fait de belles religieuses aujourd'hui. Oh, je vais mettre mon régime de côté. Mettez-moi s'il vous plaît le régime de café, s'il vous plaît.
Oh mais oui, vous avez raison, il n'y a pas de mal à se faire du bien, vous savez. Alors, ça fait 5,60.
Ok. Tenez.
Merci bien. Régalez-vous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Salut Jacques.
Bonjour Thierry, comment vas-tu ?
Ben ça va, t'as vu le temps qu'il fait ?
Ah ça oui, tu peux le dire, on va prendre un orage sur la figure aujourd'hui. Je pense que ça va être chouette.
Qu'est-ce que tu fais là du coup ?
Ben écoute, si je te dis, mais s'il te plaît, tu ne dis rien à Monique. J'ai craqué pour une religieuse.
Ah, ok. T'as entendu le boucan cette nuit ? C'était pas les voisins du dessous ?
Ne m'en parle pas, j'ai pas dormi de la nuit. T'as vu comment ils étaient déguisés également ? Quel bazar! Écoute, là, je vais me dépêcher. En plus, il y a l'orage. Et puis, il y a ma religieuse qui m'attend.
Bon, je te laisse, Jacques. À plus tard.
Salut!
Bonjour, Maria. Comment allez-vous?
Ben, ça pourrait aller mieux. Ça commence à bien faire, ses voisins. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais il y en a marre, hein.
Oui, j'en ai parlé avec Jacques. Et d'ailleurs, j'en ai appris une belle.
Ah bon? Dites-moi.
Ça m'y gêne. Il faut que ça reste entre nous.
Enfin, monsieur Thierry, vous me connaissez, vous pouvez me faire confiance, vous connaissez ma discrétion.
Ben, Jacques, je crois qu'il trompe sa femme.
Ah bon ? Mais avec qui ?
Il m'a parlé d'une religieuse. D'ailleurs, vous avez vu comment ils étaient tous déguisés hier au soir ?
Mais non, mais pas Jacques, c'est pas possible, pas lui.
Je vous ai rien dit, je vous laisse. À plus tard.
Au revoir.
Bonjour Maria, déjà au travail ce matin? Vous êtes levée de bonne heure.
Bonjour Monica, comment allez-vous? Bien dormi?
Ah non, si vous saviez ce qui m'est arrivé cette nuit.
Ah ben je sais.
Comment ça, vous savez?
Ben oui, tout l'immeuble l'a entendu.
Mais vous voulez parler de quoi?
Ben hier soir, la soirée déguisée, votre Jacques. Visiblement, il s'est bien amusé. La petite religieuse, il a trouvé à son goût.
Et vous voulez dire quoi par là?
Bah, je vais pas vous faire un dessin non plus. À maintenant, voilà votre Jacques. Je vous laisse, vous avez des choses à vous dire.
Ah, bah te voilà toi. T'étais où? Oh, et puis je veux même pas savoir. Elle était à ton goût, ta religieuse au moins.
Bah, t'es au courant?
Bah oui, en plus je viens de la prendre par Maria.
Eh ben oui.
Ah bah, y a pas de eh ben oui.
Ben en la voyant, j'ai craqué.
Ah non, non, mais ça c'est trop facile.
Oui, mais écoute, j'ai eu une petite envie.
Ah non, mais je m'en fous de tes envies, moi aussi j'en ai des envies. Mais, et puis mais, c'est pas pour ça que je passe à l'acte d'abord.
Mais tu sais, elle était bonne. Ça m'a fait du bien.
Ah non, mais là t'es vraiment un beau salaud.
Aïe!
Vous êtes sur le serveur vocal du service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse. Si votre enfant est rejetant, tapez 1. Si le voisinage se plaint régulièrement de votre enfant, tapez 2. Si les couteaux de cuisine ont disparu, raccrochez. Sortez sans faire de bruit de la maison et dirigez-vous vers le commissariat le plus proche.
Vladimir est un jeune russe de 16 ans, à peine débarqué sur le sol français. Il est alors accueilli à la fin du mois de juillet sur le foyer où je travaillais, perdu au fin fond de la campagne hexagonale. Premier choc pour cet adolescent, la France n'est pas que Paris. Premier cliché vérifié, les Français ne parlent que français. Pas de Merlin l'Enchanteur sous la main, donc pas de possibilité pour Vlad d'un apprentissage instantané de la langue de Molière ou du russe pour les éducateurs. Il nous fallait donc trouver un langage commun, un mode de communication dépassant la différence linguistique, voire alphabétique. Et oui, je vous rappelle que l'alphabet russe est complètement différent du nôtre. Alors, quelle possibilité? Le langage des mains? Pratique pour le basique, mais au final pas suffisamment riche, trop limité. Après quelques temps de galères mutuelles, pour s'entendre, se comprendre, Vlad arrive un matin dans la salle à manger du foyer, tenant dans ses mains un bout de papier. Il y avait dessiné un poste de radio, entouré de quelques notes de musique. Enfin, il nous disait quelque chose de lui, de ses désirs, même s'il paraissait futile. Alléluia, notre mode de communication commun était né. Suivent plusieurs jours de cette partie de Pictionary, associée à de francs moments de rigolade et d'une détente visible de Vladimir. Mais, malgré la bonne humeur ambiante, l'adolescent se sent tout de même vite à l'étroit dans ce mode de communication. Surtout au vu de son savoir, qu'il n'arrive pas du coup à exprimer pleinement. C'est comme ça qu'il finira par nous dessiner un gros carré strié. Devant notre incrédulité, il redessine ce même carré, cette fois-ci ouvert, noirci d'écriture. Eureka, c'était un dictionnaire! Enfin, il réussit à nous le faire comprendre. Une fois le dictionnaire franco-russe acheté, suivi de peu par le début des cours d'alphabétisation, nous n'avons plus jamais eu recours avec lui au dessin comme outil de communication. Par contre, tout le temps de sa prise en charge, Vladimir continua à dessiner, pour lui. Il était passé d'un mode de communication à un mode d'expression. Me concernant, cette expérience m'a permis de découvrir que même face à des difficultés de communication, il est toujours possible de les contourner, et que finalement, les seules barrières qui existent sont celles que l'on s'impose.
Pour certains, la communication est simple. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Heureusement qu'il y a des professionnels aptes à leur venir en aide.
Moi, je suis Marion Soulagna, orthophoniste en libéral. Ce qui signifie que je m'occupe de patients qui présentent des pathologies vraiment diverses. Je ne suis pas spécialisée sur une pathologie en particulier.
Pour commencer, tout simplement, qu'est-ce qu'un orthophoniste?
C'est une personne qui va aider les gens qui ont un problème sur le plan de la communication. Donc ça peut être un problème de langage oral, que ce soit chez des enfants ou chez des adultes, ou de langage écrit. Et ensuite, notre champ d'activité s'est un petit peu élargi puisque aujourd'hui, on travaille également sur des problèmes neurologiques, ce qui nous amène à intervenir auprès de personnes qui présentent une maladie d'Alzheimer, de Parkinson.
Quelles sont les entraves, les difficultés pour vous et pour les patients?
Alors, les principales difficultés, si on recentre vers la communication, en fait, c'est, on est d'accord que la communication, c'est pas juste enchaîner des mots avec la bouche. Ça nécessite des mécanismes sous-jacents qui sont beaucoup plus complexes, notamment au niveau psychologique. Et souvent, ça implique son rapport aux autres. Est-ce qu'elle ose bien placer sa voix ? Est-ce qu'elle ose projeter sa voix ? Donc, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et la personne doit être prête elle-même à changer. Si la personne n'est pas réellement prête à se remettre en question, effectivement, nous, ça va nous freiner aussi dans la prise en charge.
Est-ce que vous avez des stratégies mises en place pour pouvoir bien communiquer sur vos objectifs ?
En fait, on s'appuie, quand on a une personne qui vient pour la première fois, on va systématiquement faire un bilan. Donc c'est un outil qui est étalonné, il y a des bilans différents suivant la pathologie. Ce qui fait que le problème, en fait, il n'est pas laissé à l'appréciation de notre libre arbitre. On s'appuie sur des études qui ont été faites et ça nous donne quand même une assise pour pouvoir justifier de ce qu'on va dire aux patients, en fait, ou aux parents, enfin, ou à la famille. Moi, ma stratégie personnelle, c'est qu'une fois que j'ai fait passer ce bilan, que j'essaie de faire le plus fouillé possible, je fais un compte-rendu. Et ce compte-rendu-là, normalement, il est adressé au médecin prescripteur, mais moi, j'en donne une copie aux parents. Et ensuite, on communique sur ce document qui contient des termes parfois durs, un peu barbares aussi, parce qu'on a notre jargon de professionnel. Mais au moins, les choses sont posées.
Et par rapport à ce lien entre les enfants ou les personnes que vous recevez qui ont des problèmes de communication, est-ce que vous percevez de la violence chez eux pour justement... Étant donné qu'ils ont un manque de communication, est-ce qu'ils le projettent dans la violence ?
Oui, alors ça c'est valable pour toute personne qui a un problème de communication, de l'enfant de 3 ans jusqu'à la personne âgée. Enfin, rien n'illustre tout à fait ça. Par exemple, ce matin, j'avais un petit de 3 ans et demi qui ne peut pas communiquer parce qu'il place tous les sons en avant. Enfin, donc il est complètement inintelligible. Et à la maison, il pique de grosses colères parce qu'il répète une fois, il répète deux fois, on ne le comprend pas. Donc au bout d'un moment, ça dégénère en crise. Des crises qui se généralisent pour toute situation de frustration. Ensuite, c'est valable aussi pour des enfants plus grands, par exemple, qui présentent une dyslexie importante. Et cette violence-là, elle vient du sentiment de différence qu'ils ont. Et donc c'est très important d'essayer de, je dirais pas de normaliser une dyslexie importante, mais parce que c'est un cerveau qui est fait de façon particulière, mais d'expliquer ce que c'est exactement, de montrer qu'il y a d'autres personnes qui sont comme eux, qui ont réussi. Ou, par exemple, on fait beaucoup de partenariats entre les différents patients. Il y a une boîte aux lettres, là, ils se laissent des messages pour expliquer leur vécu. Et puis, même s'ils ne se rencontrent pas nécessairement, au moins, ils savent qu'il y a quelqu'un quelque part dans cette ville qui a les mêmes difficultés qu'eux, le même ressenti, et qui ne sont pas pestiférés. Enfin, voilà. Et ça, c'est très, très important parce que, souvent, ces enfants-là qui présentent un trouble de la communication, ils ont une sensibilité qui est vraiment exacerbée. Et donc, il faut vraiment en tenir compte. Voilà, il faut vraiment les ménager. Et puis, en même temps, ils ont une grande faculté de compréhension. Donc, ils sont tout à fait capables de comprendre la particularité de leur pathologie.
La communication permet à deux ou plusieurs personnes de se comprendre et donc d'éviter malentendus, des conflits. Enfin, en théorie, parce que c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, l'exercice de notre profession est là pour nous le rappeler. Pour communiquer, il faut parfois savoir rompre momentanément le dialogue. Comme ce matin d'hiver où ce jeune homme m'a demandé de lui ouvrir la porte pour aller fumer une cigarette sur la terrasse. Je lui ouvre tout en lui signifiant qu'il pouvait rajouter s'il te plaît. Aussitôt, il se met en colère, me reprochant de trop lui en demander. Calmement et sûrement, je lui réponds en lui disant que c'est la moindre des choses. Il entre alors dans une colère noire, à la limite de l'agression verbale, voire physique. À ce moment, je vois qu'il perd progressivement la maîtrise de ses émotions. Je mets un terme à la communication et lui dis « Écoute, je vois que tu es énervé et que tu n'es pas disposé à discuter. » Il est parti avec l'éducateur chercher des activités d'insertion, sans se calmer pour autant. La communication avec le jeune n'a pas été possible car il n'était plus réceptif à mon discours, à mes propos. La rupture spatiale et temporelle a permis à la raison de reprendre le dessus sur les émotions. Ça lui a permis de retrouver ses esprits, de réfléchir sur ce qui s'était passé. Deux jours plus tard, j'ai repris avec le jeune pourquoi il avait réagi comme ça. Il a alors été capable d'exprimer les sentiments qui l'ont traversé au moment où je lui ai fait la remarque. Il s'est senti infantilisé par mon propos, ce qui lui a déplu et a entraîné un état de colère qu'il n'a pas su contrôler. Cette violence, c'est aussi une forme de communication pour manifester son mécontentement. Ce jour-là, il y a eu une incompréhension. Le sens du message que j'ai émis a été perçu différemment par l'adolescent. Ce décalage de sens a entraîné une situation de conflit. La rupture du dialogue a permis de mieux communiquer et de comprendre sa réaction. Je pense que rompre une communication lors d'un conflit n'est pas un échec éducatif. C'est juste faire un pas de côté. Dans mon exemple, ça a stoppé le jeune dans l'escalade de sa violence et moi j'ai eu le temps de réfléchir à la situation pour mieux la reprendre avec lui.
Vous êtes sur le serveur local du service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse. Tous nos éducateurs sont actuellement en phase d'élaboration collective à la machine à café. Nous nous efforçons de rétablir l'action éducative dans les plus brefs délais.
J'ai mis longtemps à comprendre ce que je disais. J'irai même plus loin. J'ai mis une éternité à m'apercevoir que finalement, j'exprimais le contraire de ce que je cherchais à signifier. Enfant déjà, à l'époque où je me couchais tôt, les injustices provoquaient ma colère. Heureusement pour mes interlocuteurs, chaque explosion de colère était accompagnée d'une crise d'asthme, ce qui me rendait inoffensif. Le mobilier, lui, malheureusement, ne pouvait échapper à ma fureur destructrice. À l'adolescence, contre toute attente, mon investissement corps et âme dans une pratique sportive intensive m'a permis de ne pas être classifié comme sociopathe. Et surtout, j'ai acquis la conviction que mon travail acharné me permettrait de montrer ma vraie valeur.
Allez, pousse ! Pousse, souffle ! Pousse, souffle !
À 25 ans, j'étais entraîneur d'aviron. Bien que pesant 20 kg de moins, j'étais suffisamment impressionnant pour convaincre sans trop discuter. Avantage, diront certains. Ou pas.
On va au bout ! On va au bout !
Un entraîneur survolté suit une équipe de jeunes rameurs exténués lors d'une séance très intensive. Ça donne ça.
Allez les gars, je sais que c'est le troisième 500, je sais que vous avez mal, mais la douleur, c'est une information !
À ce moment-là, ces jeunes pourraient bien s'imaginer que s'ils ne finissent pas leur séance correctement, c'est le coach qui va leur faire du mal.
Ce travail ne vaut que s'il est bien fait ! Si vous continuez à ramper comme ça, je vais devoir prolonger la séance !
Ouf, le coach veut juste nous tuer à la tâche. Privilégier l'expression de ses convictions sur l'attente de l'interlocuteur, il n'y a pas meilleure méthode pour passer à côté de l'échange. Alors progressivement, j'ai enrichi le panel de mes interventions pédagogiques pour ne pas me cantonner au rôle du coach gueulard qui coule infusible dès que la performance n'est pas au rendez-vous. Même si mes interlocuteurs étaient convaincus de ma bienveillance, je souhaitais pouvoir exprimer mon engagement sans débordement verbal. Pour assurer le contrôle, le jour J, je planifie chaque minute de l'heure avant la course et je pratique à fond mes exercices de respiration avant de sortir du bus. Je pensais le faire pour eux, mais bien entendu, ce n'était pas le cas. La course se déroule sans entrave. L'ultime effort, qui conduit à la victoire, n'appartient pas à l'entraîneur. Une question reste en suspens. Était-il vraiment nécessaire d'être aussi brutal pour accéder à ce niveau de performance ? Cette question ne restera pas sans réponse et m'accompagnera tout au long de mon cheminement dans l'action éducative.
Attention, attention. Dans quelques instants, la communication va être interrompue. Votre temps d'antenne va prendre fin. Attention, attention. 30 secondes.
Oula, on a un message à faire passer. Avant l'interruption de cette communication, nous tenons à remercier
Lara, Saba, Laure, Nicole, Aurélien, Thierry, Marc, Cabral, Mahmoud, Carlos et Christophe, mais aussi Xavier Passot, responsable du GEPAN, Marion l'orthophoniste, le PTF Sud, ainsi que Jean-Jacques et Élise, nos formateurs de la semaine de l'association Wakadi.
Et Wakadi, ça veut dire « on a quelque chose à dire ».
10 secondes.
Nous espérons vous retrouver très bientôt sur les ondes. Et n'oubliez pas que... Tais-toi quand tu parles.
5.
Comment ça ? Je me tais quand je parle.
4,
non, non.
3,
tu es toi quand tu parles.
2, ah, ok. 1,
0.